Au départ, elle était malade, elle s'est cassée le petit doigt de pied, le pouce, mais il n'y avait pas grand-chose, quoi. Mais bien souvent, quand on dit ça, les gens sont tellement sceptiques qu'ici à Réunion, donc il y a toujours un problème de sorcellerie, tout ça. Donc, ce qui fait qu'on a amené beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses étrangères dans cette maison-là. Et c'était une maison vraiment terrible que je vivais dedans. Donc moi, j'ai dû quitter l'école parce que ma maman, elle était malade. Et voilà, je me retrouve dans la maison, soutenant ma maman dans la souffrance pendant ses 11 ans. Elle avait une douleur qui était assez rare et elle criait nuit et jour. Nuit et jour. Ce qui fait qu'elle roulait même sur les gonies par terre, qu'on mettait par terre pour pouvoir la calmer. Et entre-temps, dans la région Malbard, tout le monde connaît ça, ici à La Réunion, donc après tu arrives, là tu arrives. Mais entre-temps, dans tout ça, ça a ruiné mon papa parce que tout ça, il faut payer, il faut donner de l'argent. Où on va, il faut donner des sous. Donc il travaillait dans les cannes, et donc, vous savez, quand on travaille dans les cannes, il faut payer 500, 600, 1000 francs à l'époque, hein, donc ça nourrit. Et moi, je fais partie d'une famille de 10 enfants et mes parents, ça nous faisait 12 personnes. Donc, la famille était nombreuse et moi, on est 9 filles et un garçon. Et donc, moi, j'ai une sœur qui a appris à conduire le camion parce que mon papa, au même moment que ma maman était malade, mon papa tombait tous les matins sur le camion, il tombait dans les champs. Donc, ma sœur a dû apprendre à conduire le camion pour pouvoir l'emmener tous les matins quand il tombe. Et donc, à force d'emmener là, j'avais une sœur aussi qui, dans la maison, là, dans cette maison-là, parlait en homme et qui avait des comportements bizarres. Donc, ils étaient trois dans la maison qu'on était. C'était vraiment, vraiment, vraiment la galère de vivre dans cette maison. À tel point que sur la maison, ça marchait, autour de la maison, ça marchait. On secouait sur la porte, les chiens gagnaient le coup. Là, c'était vraiment de mauvais esprits. Vraiment, vraiment, c'était vrai. Je crois qu'on dit la Légion même était chez nous, quoi. Et moi, j'étais à la maison et je m'occupais de tout ce qui est s'occuper de tous les animaux. Je vaccinais les animaux et tout ça. Je faisais de l'entretien. Donc, je lavais le linge de toutes mes sœurs qui allaient au champ parce que toutes mes sœurs allaient au champ. Donc, voilà, ma vie. Et comme je souffrais tellement, bien sûr, ma famille souffrait aussi. Et je me disais toujours, un jour je vais sortir là, un jour je vais sortir là, un jour. Et c'est là que je passe un petit test, vous savez, avant on appelle ça la parenté. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous savez. Et c'était pour faire la pâtisserie, aller faire une formation en pâtisserie en métropole. Bim, je reçois ce... Voilà. Je reçois ce petit test-là, donc le facteur arrive et dit, je suis prêt à partir en métropole. Mais dans mon cœur, j'avais du mal de laisser ma maman là, ici, à La Réunion. Je me dis, je vais partir, mais elle est là. Et tous les sorciers nous disaient, oui, mais elle va sauter la mer, les mauvais esprits vont partir. C'est ce que ça, ils se disaient, hein. Donc la plupart du temps, quand on a un problème ici, allez, hop. C'est la mer, chose qu'il faut jamais faire parce que voilà, et nous voilà partis en métropole, ma maman et moi. Voilà, et j'arrive à La Verrière dans les Yvelines, voilà, à La Verrière, et j'arrive chez une de mes sœurs et voilà, le couple ça va pas du tout, c'est des disputes jusqu'à 1h, 2h du matin et tout ça, jusqu'à ce que ma sœur me dit bon, il faut partir ailleurs puisque moi je quitte mon mari. Donc, voilà. On se retrouve sur Versailles. Et donc j'ai une autre sœur de Versailles. Et on se retrouve sur Versailles. Et à Versailles, ma sœur, maman, pareil. Hein, elle reste dans la... C'est pas dire qu'on a traversé la mer, hein, c'était pareil. Hein, les souffrances, les douleurs étaient là. Et quand on est dans un bâtiment métropole, c'est pas évident à vivre. Hein. Donc voilà, en France. Et ma sœur me dit, écoute, Marie-Noël, tu peux pas rester comme ça, c'est vrai, il faut tout payer ici, bon, va t'inscrire au rectorat, peut-être tu auras un petit peu d'entretien, quelque chose comme ça à faire. Puis je dis, ok, il n'y a pas de souci, je m'inscris et tout ça, j'ai un mois d'entretien dans un collège, j'y vais. Et après, ben, maman, elle souffre toujours. Et après, à un moment donné, je suis, le rectorat me rappelle et me dit que j'ai un poste en laboratoire. Puis tout de suite, au bout du fil, je dis, ah non, je peux pas accepter dans un lycée en laboratoire que je connais rien du tout. Et il me dit, non, madame, on n'a pas besoin de vos connaissances, on a besoin de tenir un poste. Je dis, ok, j'arrive. Voilà, et j'arrive. J'arrive dans ce labo et je vois une collègue et un collègue qui me reçoit. Et vraiment, quand on ne connaît pas le Seigneur, Dieu nous connaît vraiment. Et j'étais en face de deux personnes qui avaient beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Et moi, quand je rentre de labo, je vois les tubes à essai, les allumés, etc. Je dis, Seigneur, où tu m'as mis que je ne sais pas. Et là, bon, malgré tout, je prends mon cahier, je note tout ce que je fais. Et bim, les deux collègues ont mon arrêt de maladie. La femme, elle est enceinte et mon collègue est malade. Et ben, comme je ne dormais pas, donc arrive aussi, il y avait quelqu'un qui est venu m'aider en chimie et un collègue antillais qui arrive en physique. Voilà. Donc on est tous les trois, ne connaissant rien. L'ordinateur, quand on travaille ensemble, donc il voit un petit peu comment on travaille. Donc voilà, apparemment je travaillais bien, mais comment je ne sais pas, puisque je ne connais pas grand-chose. Mais ce qui fait les notes que je prenais, peut-être ça me servait quand même. Donc voilà. Et ben là, on est à Versailles, chez ma sœur et maman, pareil, elle souffre, elle crie. Et là, ben, j'arrive au labo, toujours, ben, j'étais triste, je dormais pas. Parce que toute la nuit, je dormais pas et tout. Et je dépose mon sac et cet antillais, il s'appelle Georges, il venait et il me voyait. Puis il me dit... Il essaye toujours de me poser la question, ça va et tout ça. Mais il a fait plusieurs fois hein, ça. Hein? Et un jour, il est arrivé, il me dit, « Oh, mais moi, je te vois que ça ne va pas parce que tu es triste et tout ça. » Et vous savez, quand on est dans cet état, on est vraiment une personne irritable et tout, fatiguée de la vie, fatiguée de tout, fatiguée même des gens. Hein? Parce que c'est pas pour dire. Hein? Donc, très agressive. Et puis, avec beaucoup de je dirais ça de méchanceté, je lui dis, oh, mais ça ne vous regarde pas, mais toujours est-il, ben, maman est malade, ma mère est malade. Et puis c'est là, il me dit, ah bon, il me dit, ça. Et là, il ose me dire, pour moi c'est osé, hein, c'était à ce moment-là, c'était osé. Il me dit, est-ce que je crois en Dieu? J'ai failli le frapper. Parce que vraiment, j'avais ça en moi, jamais je pleurais ça. Et franchement, Dieu a gardé cette main-là. Et vraiment, l'envie était vraiment dans mon cœur parce que toute cette souffrance, la religion malbar ne joue pas avec, hein, toutes ces dépenses et tout ça, la catholique, parce que moi je croyais que je priais un Dieu. Pour moi c'était Dieu, quoi. Et qu'on ose me demander si je priais Dieu, ben, c'était trop pour moi. J'ai pas accepté ça. Du coup, bon, j'avais une paillasse et il me dit, ben, prends cette table-là. Mais je dis non, je peux pas prier cette table-là. Il me dit, mais Manuel, prie cette table-là. Je dis, ben non, je peux pas prier, mais c'est une table. Et une trois fois, il me dit de prier la table. Et voilà, qui me dit, mais ah, tu pries pas la table. Il me dit, ben voilà, Dieu, lui, il a fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Et il me dit, même le souffle de vie qui entend tout. Comment peut-il habiter dans quelque chose qui est malléable, qui se casse, qui se brise? Et tu vois, la table, elle est en bois, on fait ceci, on fait cela. On fait... Je suis interpellée dans mon cœur. Je dis, ah, il n'a pas tort. Et vraiment, là, ça m'a vraiment touchée. Il me montre la grandeur de Dieu. Et là, il vient même sur les garanties. Sur les choses qui sont ferrailles, ils sont tellement palpables. Et comment les choses qui n'ont pas de vie, que les gens peuvent mettre leur confiance. Ah, et là, mon cœur commence à s'ouvrir. Et je me dis, ah oui, il n'a pas tort. Mais malgré tout, quand il s'en va, là, je les critique avec les autres. Hein. C'est une vérité. Et je dis, ouais, il pousse pour qui? Mais pour un pasteur. Une chose que je ne savais même pas, c'est quoi un pasteur. Hein. J'ai entendu le mot, je répète, quoi. Il se prend pour un pasteur, et ceci, cela. Et au même moment qu'il est là, il me dit, est-ce que j'ai déjà lu la Bible? Je dis, oui, j'ai déjà lu la Bible. Je lui dis, qu'est-ce que tu as pas compris? Je lui dis, oui, mais ce que j'ai pas compris là-dedans, c'est le parler en langue. Et puis là, et au même moment, il amène sa Bible. Quand Dieu est là, au moment qu'on va toucher son cœur, il arrive même au laboratoire avec sa Bible. Donc là, il me dit, mais tu vois là-dedans, là? Et Dieu, il te dit qu'il est esprit et vie. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc-là? Il me dit, mais Dieu, il est esprit. Alors en ce moment, il connaît tout ce qu'il y a dans ton cœur. Il t'a entendu. Il sait ce que je te dis, il sait tout. Et la vie, c'est tout ce qu'il y a dans cette parole. Ah, j'ai dit, ah bon? J'ai dit, là, il peut entendre ce que je dis? Il me dit, oui. Et franchement, quand on vit ça pour la première fois, franchement, ça fait quelque chose. Et là, il s'en va dans son labo. Et au même moment que lui, il me porte la parole de Dieu, là, mon beau-frère nous dit, mêlez à la porte. On se trouve à la rue, quoi, finalement. Et maman, maman, elle est là, elle est chez mon beau-frère, elle se retrouve déjà à la rue. Et moi, je suis au lycée. Et là, elle fait le tour des bâtiments. À Versailles, il y a un quartier, on était dans le quartier de Jussieu. Donc, elle se promenait tout en criant, souffrant, puisqu'elle était malade, quoi. Et voilà, à bord d'une dame. Arrive une dame, vraiment, que Dieu a amenée sur ses pas. Hein. Arrive une dame devant elle et qui lui pose la question, qu'est-ce qui va pas et tout ça. Et cette dame, comme Christ a eu compassion, cette dame a eu compassion de ma maman. Il lui a dit, mais ne vous inquiétez pas, madame, ce soir, je vous prends chez moi. Wow. Donc, elle explique que moi aussi, elle a une fille qui est allée travailler, tout ça. Et moi, j'arrive le soir. Et j'aborde, et maman arrive à un certain moment de la rue pour me dire, ben non, on ne peut plus rentrer chez mon beau-frère. Alors imaginez-vous, quand je crois que je rentre chez mon beau-frère, je n'ai plus de place où dormir. Pour moi, ça fait mal, quoi. Ça fait très mal. Et ben, au même moment, ben, cette dame, elle arrive, elle me dit, ne vous inquiétez pas, je vous prends chez moi. Et donc, cette dame, elle avait un fils de 14 ans. Elle a vraiment dormi avec son fils pour pouvoir nous donner la chambre de dormir. Voilà. Et donc, voilà. Et après, bon, tout en étant comme ça chez cette dame-là, on était chez cette dame, mais on était pas chez nous, quoi. Et après, mon contrat termine. Mon contrat est presque terminé. J'ai dit, maman, j'ai dit, j'ai mon voyage encore payé jusqu'en... On était en 1986, voilà. Le 26 septembre 1986. Et donc, je pouvais rentrer encore ici à La Réunion. Et puis, j'ai dit, maman, tu sais qu'il y a un monsieur qui me parle de son Dieu. Voilà. J'ai dit, il y a un monsieur qui me parle de son Dieu et qui me dit qu'il ne faut pas adorer les choses, qu'il faut parler comme ça avec Dieu. Comme ça. Tu lui dis ça. J'ai dit, tu sais, demain, je vais voir le proviseur. Ce qu'on va faire tous les deux, c'est mettre nos genoux par terre et allons prier comme ça. Donc, maman et moi, on se met à genoux et j'ai dit, Dieu de ce monsieur. J'ai dit, Dieu de ce monsieur. Demain, je vais voir le proviseur. Écoute, si je dois avoir ce travail, ben, je vais, si je parle. Je lui dis comme ça, puisque je ne sais pas comment il faut prier. Voilà. Et le lendemain, je me réveille, j'arrive au lycée. Et donc, il y a une grande salle, hein. Il y avait les parents qui attendaient le proviseur. Et donc, le proviseur, comme il me connaissait déjà, puisque j'ai travaillé au boulot, là, il ouvre la porte et bim, il vient en ma direction. Et quand il s'approche de moi, il me fait la bise, il me tape sur l'épaule. Mademoiselle Balaya, ne vous inquiétez pas, je vous prends chez moi. Wow. Alors là, pétillante comme le Perrier. Et là, j'avais pas ouvert ma bouche pour lui dire que je viens chercher du travail.
Oui.
Je savais pas comment j'étais. Franchement, là, mon cœur j'étais, mon Dieu. Et là, j'ai couru, j'ai couru, j'ai pris la Bible, j'ai pris le bus et tout ça. Et j'arrive chez la dame, j'ai dit, maman, le Dieu de ce monsieur est vrai. Dieu de ce monsieur est vrai. Après, elle me raconte ce qui se passe et tout. Et puis, ben, j'ai dit, voilà, j'ai dit, j'ai pas eu le temps de parler, tout ça. Il m'a proposé du travail et tout. Et voilà. Et là, le rectorat, mon contrat termine, le rectorat. Ben là, ce monsieur, il est venu exactement pour moi. Mmh. Envoyé du Seigneur. Amen. Parce que dans ma souffrance, il avait juste un contrat ou un ou deux mois, quelque chose comme ça. 2 mois, je crois. Et avant de partir, il me dit, écoute, Marinelle, voilà, je te donne mon adresse, je te donne mon numéro de téléphone. Dès que tu auras un souci, n'hésite pas, je suis là. Je le laisse partir, au revoir et tout. Et puis, voilà, le rectorat me rappelle et me dit, bah, écoutez, pareil, le laboratoire s'ouvre. Il me dit, vous allez... Et Dieu m'a toujours mis dans des grands bahuts à Versailles. C'était Jules Ferry, le premier lycée que j'ai travaillé. Et là, il me remet dans un grand lycée des Yvelines, le lycée de Versailles, qui s'appelle le lycée Hoche, pardon. Et on travaillait avec 3000 élèves. Donc, les élèves commençaient à partir de 6e jusqu'au prépa, veto et tout ça, vétérinaire, médecin et tout. Et là, ben, la première année, je tombe en physique-chimie. Et là, bon, pareil, hein, je ne connais pas trop physique, je ne connais pas trop chimie, j'ai toujours mon calepin, je note. J'ai perdu une étape, là, c'est que quand mon beau-frère nous a mis et que j'étais chez cette dame-là, et quand le proviseur m'avait dit qu'on me garde, et j'ai été voir le proviseur, j'ai lui dit, écoutez, monsieur, j'ai dit, ben, je me trouve à la rue, je n'ai pas de toit où y aller, donc voilà. Et entre-temps, j'ai dit à ma cousine qui était dans les zones, j'ai dit, écoutez, venez prendre ma maman, j'ai dit, je ne sais pas comment faire, on ne peut pas rester éternellement chez la dame quand même. Ma cousine, elle est venue prendre ma mère, et puis là, j'étais voir le proviseur m'a donné l'internat pour y rester. Donc, ce qui fait, j'ai passé le mois de juillet, août. Et là, arrive que ma cousine me téléphone, me dit, Marinelle, je n'en peux plus. Tu te débrouilles, viens chercher ta mère. Tu es toute seule. Tu es dans un internat. Tu n'as rien du tout. Je téléphone ma soeur qui suit Versailles. Je dis, écoute, va chercher maman dans les sols. Elle ne peut pas recevoir parce qu'elle est dans les foyers. Là-bas, c'est fini. J'ai dit, ben, va chercher maman. Je vais ramener là avec moi. Et quand le Saint-Esprit a commencé à faire quelque chose dans ton cœur, il le fait bien. J'ai compris que j'étais en train de faire quelque chose de pas bien. Donc le matin, donc ma cousine, elle y va. Mais avant que ma cousine y va, avant que ma soeur elle y va dans les sols, je prends mon téléphone, je suis déjà dans l'internat, je prends mon téléphone et j'appelle ce collègue-là. Là, franchement, j'avais envie de me suicider plusieurs fois hein, d'ailleurs, parce que quand on voit sa mère souffrir pendant des années, c'était envie de suicider, envie de mourir. Et puis je dis, mais Dieu, ben, pourquoi ne pas me prendre au lieu de prendre ma maman? Je disais tout le temps ça, alors que Dieu, il n'est pas comme ça, quoi, hein? Mais ne connaissant pas. Donc, voilà. Et je prends mon téléphone, je téléphone et je disais encore à ce monsieur, prie ton Dieu pour moi. Pas mon Dieu, je ne me connais pas. Prie ton Dieu. Et c'est là, il me dit, ok, il me dit, ben, je vais te passer quelqu'un, donc voilà, tu vas parler avec cette personne. Et il m'a passé une dame, bien sûr, une sœur en Christ. Donc elle m'a parlé tout ça, et moi je lui ai parlé tout ce qui se passe dans ma vie. Donc voilà, et elle me dit, ben voilà, Marie-Noël, il me dit comme ça, voilà, comme Georges t'a dit, Dieu esprit et vie, mais Dieu a horreur des idoles. Mais et une chose aussi que j'ai oubliée, c'est quand le collègue m'avait dit que vraiment pour que le Seigneur fasse vraiment qui est parti avec une flèche dans mon cœur, c'est quand tu m'as dit, eh ben, c'est une abomination d'adorer des idoles. Et quand il m'a dit le mot abomination là, et ben c'est que mon cœur a transpercé par la flèche du Seigneur, hein, franchement. Parce que je lui ai dit, mais tout ce qu'on a fait pendant toutes ces années pour guérir ma maman, ben Dieu n'était pas là. Il m'a dit non. Et en plus que ça, que j'ai oublié de vous dire, il me disait, mais quand tu priais ton Dieu catholique, est-ce qu'il t'a répondu? J'ai dit, mais non. Est-ce que quand tu as prié ton Dieu Malba, là, quand tu dis, est-ce qu'il t'a répondu? Non. Et si tu mettais tous les deux ensemble, est-ce que tu t'as répondu? J'ai dit, mais non. Et le mot abomination, ça m'a fait très mal, très très mal. Parce que dans mon cœur, parce que dans cette jeunesse que j'avais dans la maison chez mon papa, je pense que j'avais l'âge de 12 ans à peu près, parce qu'on avait une grande cour. Et j'ai été un jour dans cette cour-là et je regardais dans le ciel. Et dans mon esprit, il y avait que la mort était comme une roue et c'était que la souffrance. Et à partir de ce moment-là, là, j'avais peur. Et comme j'avais peur, il fallait que je cherche un Dieu. Parce que Malbar, il n'y a pas catholique, il n'y a pas. En tout cas, avec ce qu'on a vécu, il n'y avait pas Dieu. Hein? Donc, pour moi, il fallait que je cherche un Dieu. Et quand j'étais dans le lycée Jules Ferry, il y avait des personnes qui faisaient le ramadan. J'étais prêt à aller rentrer dans cette religion, prêt à aller voir des collègues qui font le ramadan pour trouver Dieu. Et le Seigneur m'a vraiment détourné le pas. Tout a été conduit par un Dieu. Et même que quand j'étais là-bas, je travaillais, j'allais dans les forums de voyants. Ça, vous connaissez ici, ça, il y en a aussi. J'allais dans les forums de voyants pour chercher la guérison. Toujours, je dépensais tout ce que j'avais pour avoir la guérison. Mais il n'y avait rien qui se passait. Donc voilà, et je reviens sur l'étape de maman là, et de cette dame qui est au bout du fil, qui me dit, ben, voilà ce que tu vas faire. Mais par contre, si vraiment tu veux suivre le Seigneur, il faut te débarrasser de tout ce que tu as avec toi. Et c'est vrai que quand on part en France, passe en garantie, la Vierge Marie, tous les tissus dans... Là, je peux dire ça, je peux rigoler. Hein. Ouais. Et malgré tout, elle priait toute la nuit. Et voilà, je vais voir le proviseur. Et là, oui, et cette dame-là, elle me dit, écoute, Marie-Muelle, il faut que tu te débarrasses de tout ça. Moi, je n'étais pas quelqu'un pour dire, ouais, si j'enlève ça, c'est pas bon, c'est bon. Je n'ai pas eu aucun moment d'avoir crainte de quoi que ce soit. Ce que j'ai fait, j'ai couru. J'ai pris un sac de poubelle, couru, et j'ai enlevé tout ce qu'il y avait, tout ce qu'on a, parce qu'il y avait moitié linge, moitié tout à fait. Tout. Et j'ai mis tout dans les sacs de poubelle, mais avec vitesse, hein, c'était pas pour dire. Parce que je sais qu'on est parti chez les gens ici, ouais, vous voyez, s'il m'enlève ça, ouais, voilà, il calcule avant. Mais moi, je n'ai pas calculé. C'était, je voulais mettre ce malheur derrière moi. Ce malheur derrière moi. Donc, j'ai fait précipitation, j'ai mis toutes les bonnes statues Malba, catholiques, tissus, tout ça. Les mâles, tout ça, j'ai mis ça, tous les garanties, j'ai mis ça dans sa poubelle et j'ai couru. Et chose que je ne savais pas, et puis j'aurais pas pu le faire, donc en France on ne pouvait pas rien, quoi. Donc j'ai couru à la poubelle et j'ai mis ça à la poubelle. Et quand je suis arrivée, déjà quand je suis arrivée dans cette chambre-là, je me suis mis à genoux et j'ai demandé pardon. Et là j'ai commencé à adresser à un Dieu que je ne connais pas. J'ai prié tout en parlant, j'ai demandé pardon, mais... et je ne savais pas prier, mais pardon pour ce qu'on a fait, qu'on ne savait pas. Et vraiment, dans mon esprit est arrivé de la neige, tout blanc, mais tout blanc. Mais franchement, oh là là, vraiment quelque chose de blancheur est arrivé devant mon esprit. Et voilà, je sors de là. Et maman arrive dans le avec moi, et je vais voir le lendemain, je me réveille, je vais voir le proviseur, et je lui dis, écoutez proviseur, ben, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, voilà, et non pas seulement moi qui est à la rue, mais ma maman est aussi à la rue, Donc, il me dit, ne vous inquiétez pas, mademoiselle de la gare, je vais vous faire amener un lit. Alors, dans le même détail, voilà, le Seigneur permet qu'il me ramène un lit. Et donc, on est là avec la rencontre dans le mois de juillet, août. Et c'est là, je téléphone à ce frère-là, et c'est là que, à l'époque, c'était une réunion, une église baptiste. Moi, je ne connaissais pas trop les églises, je ne connaissais pas la Bible, je ne connaissais pas les églises, je ne connaissais pas rien. Là, on m'a parlé de Dieu, j'ai vécu ça, je suis. Et là, je me suis fait à fond pour le Seigneur, à fond de lire la Bible, de participer avec les frères et sœurs. On allait dans l'église, on allait dans les maisons. Et là, franchement, j'ai fait 7 ans en métropole et 7 ans, j'ai habité chez des sœurs et frères. Donc, chez des sœurs et frères en Christ, des sœurs et frères en Christ. Et voilà, la première année, je suis en physique chimie, je fais l'année. Et le rectorat me rappelle une deuxième fois pour me dire, écoutez, il y a une autre proposition, vous voulez bien quitter en bas pour monter en haut? Je dis, ah oui, il n'y a pas de problème. Je suis là. Et en haut, c'était la biologie. Donc tout ce qui est, quand j'arrive en haut, ben là, c'est, bim, c'est ce que j'aime. Qui dit dissection, décérébré, démédulé. La vie, chose que j'ai pas pu le faire parce que j'aimais tout ça et je me suis mis de tout cœur à faire mon travail. Et un jour, un professeur m'aborde et me dit, écoute Marie-Noël, ça te dit de passer le concours? Je dis, ah non, j'ai dit, parce qu'il me dit, j'avais fait une expérience, que c'était un petit potin qui s'appelle potomètre pour la respiration d'une plombe. Donc il me dit, si je te demande de faire ça, est-ce que tu sauras faire pour moi? Je dis, oui, il n'y a pas de souci. Ok, si tu me dis oui, donc tu sauras passer le concours. Wow. Il a eu une confiance totale. Et quand Dieu fait les choses, il n'oublie rien. Au moment qu'il me dit ça, l'inspectrice de l'Académie de Versailles se trouve dans ce labo. Il se tourne vers l'inspectrice et il s'adresse à l'inspectrice disant, nous avons une jeune fille qui vient de l'île de la Réunion. Pouvez-vous lui accorder la faveur de passer ce coup? Et l'inspectrice lui dit, mettez-la sur la liste. Donc, j'ai jamais pris un stylo pour écrire Mademoiselle Balaya, je vais passer. Ce professeur a été mon papa spirituel tout en étant physique et qui ne connaît pas Dieu. Dieu a utilisé cet homme-là, mais vraiment d'un amour incroyable. Il m'a inscrit à ce concours. Et c'est lui qui a demandé aux collègues de physique, de chimie et tout ça, de m'apprendre. Et lui, il me donnait des cours de géologie, de la faune, de la flore et tout ça. Donc, j'allais dans les forêts, tout ça, je travaillais. Et après, il m'a dit, qui va te surveiller pour l'examen? Je dis, je ne connais pas, puisque je ne sais pas ce cours. Mais c'est moi. Donc on va à Paris, et arrivé à Paris là-bas, franchement, c'est le papa spirituel qui revient vers moi. Il y a tous les gens qui sont là, ils sortent de son pupitre, il arrive en face de moi, écoute Marie-Noël, rassure-toi, on a travaillé, je sais que tu pourras le faire. Et il se repart vers son bureau, c'est lui qui surveille. Donc voilà, il me surveille, je fais un 13,5 en écrit, voilà. Et on a une partie d'atelier aussi qui est, pour faire des interrupteurs, de souder, de couder, de voir tout ce qui est vraiment pratique. Donc, les cordes et tout ça, quoi. Donc, il faut beaucoup de travail. Hein. Je ne dormais pas la nuit, parce que sinon, je ne pouvais pas travailler. Hein. Je ne dormais pas la nuit. Donc, voilà. Et arrive encore un jour, il arrive devant moi, il me dit, oh, tu sais, il y a encore une surprise pour toi. Je dis, ah bon? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais devine où le centre d'examen a été choisi. Je dis, je sais pas. il me dit, ben, c'est ici, chez toi. Voilà. Et donc là, quand on est dans un bahut, qu'on connaît tout le lieu, et le, tout le matériel, ben, c'est une bonne partie d'assurance, quoi. Hein? C'est important. Donc voilà. Et le jour de l'examen, toujours il est là avec moi. Et quand je rentre avec l'examinateur, il est toujours à la porte là pour dire, écoutez, c'est une jeune fille qui vient de l'île de la Réunion, elle est de chez nous, voilà, de lui accorder une petite faveur, parce que bon, toujours le petit papa qui est là pour sauver sa vie. Voilà. Et voilà, je rentre à mon examen, là, mon travail, j'ai des préparations microscopiques, j'ai plein de choses à faire, quoi. Et je ressors, voilà, je ressors et je ressors avec un 18.
Oh.
Moi qui connais, je ne savais pas, hein, je ne savais pas si je sortais avec un 18. Hein.
Ah, oui.
Je sors là. Et le lendemain, j'arrive au boulot et le lycée Hoche, c'est un lycée qui était un ancien couvent, C'est vraiment un labyrinthe. Donc, sûrement, ils ont dû téléphoner en bas pour que j'arrive, quoi. Hein. Mais quand j'étais une partie dans ce lycée-là, j'entends des applaudissements, qu'est-ce qui se passe là-haut? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mais toutefois, je monte. Et là, tous les professeurs, tous les collègues se sont alignés jusqu'au labo et tout le monde m'applaudissait. Vraiment, c'était vraiment le cadeau du ciel. Vraiment un cadeau du ciel. D'avoir eu cet examen. Et aujourd'hui, je suis dans le lycée. Je n'ai pas le bac. J'ai les sujets du bac qui arrivent dans ma main. Je fais travailler les élèves avec les sujets du bac. Et donc, ce que Dieu fait, c'est divin. C'est divin. Et à la suite de cela, ben, c'est pareil. Et c'est là que, bon, il y a trois témoignages qui a été fort pour moi au moment que j'ai connu Dieu, parce que, franchement, quand j'ai connu le Seigneur, j'ai jamais voulu retourner en arrière. J'ai perdu ma famille, hein. Vous voyez, à la Réunion, mon papa, ma sœur, il y avait des échos très méchantes et très mauvaises. J'ai quitté ma nation et tout ça. Donc c'était difficile, mais j'ai pas regardé ça parce que je me disais que quand les larmes coulaient, j'étais toute seule. Donc il y avait que Dieu qui était là, mais personne qui était là. Et donc quand j'ai fini mon concours là, et je disais à une collègue, allez, je vais passer mon permis. Il me dit, moi je te conseille d'aller faire 15 jours. Tu vas faire un stage, et puis je dis, ah non, je ne peux pas faire un stage, je ne connais rien à conduire, rien. Et puis les autres collègues me disent, mais si, vas-y, tu as plein de choses dans la tête, là, ça y est, c'est bon, vas-y. Écoute, je l'écoute, je vais. Et puis j'ai fait 15 jours je vais passer mon permis, donc le matin, 4 heures de l'après-midi ou 4 heures de conduite, c'est non-stop.
C'est ça le stage.
C'est vraiment poussé. Hein. À tel point, le soir, j'arrivais, je montais sur mon lit, je faisais ça dans le bagage. Une soeur, je lui ai dit, allez, mets-moi sur la route. Tellement je calais à toutes à ce qu'elle me disait, elle me dit non, je lâche avec toi, moi je n'en peux pas parce que c'est trop dur avec toi. Mais j'avais 33 heures de conduite, mais 33 heures non-stop, je calais toujours. Je calais. Et le jour de l'examen, puisque je ne sais pas conduire, je fais une heure de conduite le matin et le moniteur me dépose. Et quand il me dépose, il me dit, quand on travaille 15 jours avec une personne, on sympathise et tout, hein, il me dit, il faut te préparer à dire que tu n'auras pas le permis parce que, bon, je ne sais pas conduire, quoi. Même le matin dans la conduite, je ne sais pas conduire. Moi, je dis, écoute, là, mais dans mon cœur, c'est ce qui est arrivé. Mais toi, homme, tu es sur cette terre, mais qu'est-ce que dit mon Dieu? C'est ce qui est arrivé dans mon cœur. Franchement. Et là, je rentre à la maison, j'étais chez une de mes sœurs là, je m'agenouille. je me mets à genoux, puis je dis, Seigneur, j'ai dit, si c'est ta volonté que j'ai ce permis, accorde-moi, mais si c'est pas ta volonté ou je vais tuer quelqu'un, ne me donne pas ce permis. Mais toutefois, je veux l'utiliser. Et je lui dis, je veux utiliser mon permis pour pouvoir emmener des personnes à l'église. C'est ce que je lui dis. Et voilà, on est arrivé, on est 5 filles et un garçon. Voilà, et puis la fille me dit, allez, vas-y. Et je voyais des filles qui sortaient, qui pleuraient, tout ça. Waouh, waouh, waouh. Il est dur cet inspecteur-là, parce qu'il avait fait les filles qui pleuraient. Et il y avait un jeune homme, une fille et une autre, et moi et une fille. Et la fille me dit, non, 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 vas-y toi, parce que moi je vois un peu comment il est, quoi. Et puis après, donc, je voyais. Et moi, quand je rentre dans la voiture, et bien, toute la... Franchement, cette émotion me touche encore. Ce n'était plus moi qui étais là, c'est Dieu qui a pris le contrôle du moment. Et franchement, c'est cet inspecteur, il est devenu doux comme un agneau. Franchement, calme, gentil. Et j'ai fait ma conduite sans caler. Parce que ce n'était plus moi qui conduisais. Le Seigneur a pris le volant. Je me suis arrêtée, j'ai arrêté à un rond-point. C'est une faute grave. Mais lui, l'inspecteur ne m'avait pas dit où je devais y aller. Oui. Donc, il n'a pas compté comme une faute grave. D'accord. Donc, après, là, je termine et je termine sans caler. Et franchement, je vous dis, l'émotion que vous avez quand vous n'appuyez pas sur l'accélérateur et l'embrayage et tout ce que, franchement, on est comme porté comme une plume, quoi. Très légère, très légère. C'est une émotion vraiment divine, franchement divine. Et j'ai oublié, hein, j'ai fait un code zéro faute et sur 40
zéro faute.
Zéro faute. J'ai tourné comme un papillon là-dedans, là, quand elle m'a dit zéro faute. Et franchement, c'était vraiment divin. Et un jour, j'arrive dans cette église, j'ai eu mon permis, j'ai téléphoné sur ma soeur, j'ai dit, ça y est, j'ai eu mon permis, tout ça. Elle me dit, mais Marie, comment t'as fait? Et dans cette église-là, tous les 1er janvier, c'était une habitude qu'on avait, là, j'étais sur Saint-Cyr, et c'est-à-dire que, on peut avoir des prières secrètes, on peut avoir des trucs dans son cœur qu'on ne s'adresse pas à tout le monde, qu'on peut dire à une personne personnelle. Et moi, j'avais un frère que j'appelais, il était jeune, mais on l'appelait son petit surnom, Papy. Et j'ai dit, Papy, j'ai dit, tu sais, prie pour moi. J'ai dit, Papy, prie pour moi parce que je vais demander ma mutation. Il me dit, non, je ne prie pas pour toi parce que tu... Pourquoi tu ne pries pas? Il me dit, mais tu vas nous quitter, donc tu veux que je... Il me dit, je dis, ah, tu sais ce que dit la Bible, la parole de Dieu, il me dit, fais de l'Éternel ses délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et il me dit, ah, ben si tu parles comme ça, je vais devoir prier pour toi. Voilà. Et il prie pour moi. Mais entre-temps, avant de demander la mutation, j'ai un collègue malgache qui était de Saint-André. Et parce que je ne connaissais pas le système de mutation et tout ça, parce que j'arrive dans l'éducation nationale, tout ça, qu'est-ce qui se passe ce truc-là? Je ne connais pas rien du système de l'éducation nationale. Et donc, je vais voir ce collègue, je lui dis, au fait, comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire la mutation? Il me dit, ah bon, tu veux faire ta mutation? Il dit, mais tu viens juste d'avoir ton concours, tu vas faire ta mutation. Moi, j'ai 10 ans là. J'ai 10 ans ici à la Réunion, en métropole. Je suis toujours là, hein, je fais ma mutation. Il dit, ben écoute, ben, c'est pas grave. Il me dit, au fait, tu peux aller faire ta mutation comme ça, tu monteras de barème tous les jours, ben, tes points, tu auras des points, tu pourras rentrer si tu veux. Mais il me dit, bien, j'ai 10 ans moi.
Ouais.
Et là, 6 mois après, je reçois un courrier. Je reçois un courrier du syndicat qui me parle de mutation. Et moi, pour moi, le syndicat, c'est zéro. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Ce sont des menteurs et tout. Franchement, je n'ai pas cru. Je ne comprenais pas. En 5e, franchement, j'avais rien dans le coco. Je ne comprenais pas le français, je ne comprenais pas et je n'ai pas honte de ce qui j'étais avant pour que le Seigneur l'a. Oui, où il m'a emmené. Et jusqu'aujourd'hui, hein, franchement, ce qu'il fait encore dans mon travail aujourd'hui, franchement, la gloire revient au Seigneur. Toute la gloire à Dieu. Et donc, si bon, et après, et quelque chose me dit, bon, pour te secourir avec toi. J'emmène, j'ai secouru dans ma blouse de travail. Et je dis, ben écoute, là, mais quand c'est le Seigneur, Dieu te guide. Et là, je vais voir mon intendante, elle s'appelait Madame Maisonneuve, je vais la voir. Je connais encore tous les noms, tous les dates et tout. Ah, merci. Donc, j'ai dit, Madame, j'ai reçu un courrier qui vient de La Réunion. Et je ne comprends rien et tout. Est-ce que vous pouvez me donner des renseignements, s'il vous plaît? Elle me dit, écoutez, il n'y a pas de souci, on rentre dans le bureau, elle s'assoit, elle me dit, mais donnez-moi ton courrier. Alors elle dit, et puis, et je vois une carte des yeux, puis c'était, elle se lève du bureau, waouh, tu vas rentrer chez toi. J'ai dit, quoi? J'ai dit, quoi? Elle me dit, mais regarde, Marie-Noël, ton dossier est passé à la commission paritaire. J'ai dit, ah ouais, tu rentres chez moi? Et bim, j'ai eu tout de suite mal au ventre pendant 15 jours. Parce que j'étais pas prête pour rentrer. 15 jours, j'étais malade. Saisissement. Parce que dans ma tête, j'étais prévu de rester là-bas. Prévu de rester. Et là, il me dit, bon, elle me dit, écoutez, va au rectorat parce que moi, je n'étais pas titulaire encore. Donc, ce que je fais, je dis, bon, je vais au rectorat et j'arrive au rectorat à Versailles, là-bas, j'arrive, je leur ai dit, ben voilà, j'ai reçu un courrier, tout ça, je leur ai expliqué tout, il me dit, écoutez, il faut qu'on étudie. Parce que, ben, je rentre chez vous, on vous appelle cet après-midi et que vous n'aurez pas des nouvelles. Donc je rentre à la maison et le téléphone sonne l'après-midi. C'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. Voilà, il me dit, ben, vos années de stagiarisation a pu être comptées pour que je rentre ici à La Réunion, alors que mon collègue 10 ans est encore là-bas. Et j'ai pu retourner ici à La Réunion. Mais quand j'étais aussi en métropole, tous les rêves, tout ce que je faisais, dans la vie spirituelle que j'avais, j'avais 7 ans en métropole. J'ai une amie qui travaillait à la préfecture de Versailles, qui avait les dossiers des logements. Je vais dire qu'elle pouvait à tout moment avoir un appartement pour moi. J'ai galéré pendant 7 ans à aller habiter chez une soeur, c'est un frère, chez la soeur, chez le frère. Mais vraiment toujours dans un amour, hein. Toujours dans un amour de Dieu, mais je ne pouvais pas rester éternellement chez des frères et sœurs pendant très longtemps. Mais entre-temps, dans Versailles, je connais tous les quartiers, hein, parce que j'ai fait les hôtels, j'ai fait les maisons, j'ai fait tout pour chercher un appartement. Et au moment que j'ai eu ma mutation, le Seigneur m'a envoyé un courrier disant, voilà où devait être ton appartement, mais c'est pas toi, c'est La Réunion que tu dois rentrer. Au moment que je reçois un courrier, voilà. Donc, je rentre. Et mon papa qui... Entre-temps, ma maman, elle est rentrée ici. Hein, pour je reviens un petit peu sur ma maman. Entre-temps, le Seigneur a vraiment béni. Elle a pu voyager, elle a pu faire pas mal de choses et tout ça.
Et sa santé, elle allait mieux?
Oui. Et donc, mon papa me téléphone et me dit, écoute, Marie-Noël, on n'est pas divorcés. Donc, il faut dire à ta mère de rentrer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets mes genoux par terre et je dis, Seigneur, tu vois son cœur, tu vois sa souffrance. Tu vois qu'elle ne veut plus rentrer, mais il n'y a que toi seule qui change le cœur. Donc voilà, et je me tourne vers elle, et là on était chez une sœur. Je vais la voir, je dis, tu sais maman, je dis papa, t'aimes encore, elle veut que tu rentres. Et là, chose qu'elle te disait contraire, elle me dit, allez Marie-Noël, tu prends mon billet.
Pourquoi c'est important de se mettre devant Dieu avant? Voilà, tu prends mon billet.
Et Dieu continue à faire des merveilles dans ma vie. Mais Samuel et moi, on le sait toujours vraiment, j'ai eu un beau-fils. Bon.
Il y a une raison pour le fait qu'il s'appelle Samuel. Mm-hmm. C'est ça?
Mm-hmm. Oui, tu avais raconté pour Samuel que tu voulais un enfant.
Oui, voilà, voilà, c'est vrai, parce que je pouvais, oui, je pouvais pas avoir, j'arrivais pas à avoir d'enfant. J'arrivais pas à tel point que j'ai fait une grossesse, comment on appelle ça,
nerveuse.
Et puis après, ben, j'avais prié, j'avais fait la prière de Anne. Mmh. Et j'ai dit, Seigneur, ben, tu me donnes un enfant, ben,
ce consacré.
Est consacré pour toi. Mmh. Et vraiment, il y a eu vraiment, si je rentre dans l'histoire, on va avoir pour
une autre fois le temps.